RCF.
Et à 18h10 sur RCF, nous allons retrouver le 18-19 en région animé ce soir par Alexis Claudretz.
Bonsoir à toutes et à tous. Ce mardi 30 janvier, on est très heureux de vous retrouver pour un nouveau magazine régional. Il nous fait l'amitié d'être présent avec nous en studio. Jean-François Boulanger, bonjour.
Bonjour.
On s'était habitué à vous avoir au téléphone. C'est un plaisir pour nous de vous voir à nos côtés.
C'en est un pour moi également.
Pour évoquer le 15e centenaire du baptême de Clovis, épisode 4.
Eh oui.
Quel sera le thème du jour ?
Alors aujourd'hui, on va voir de quelle façon justement la venue à Reims de Jean-Marie Le Pen à l'occasion de la campagne électorale sur les traités de Maastricht va un peu bouleverser la donne dans la préparation du 15e centenaire de ce baptême.
On vous retrouve d'ici quelques instants pour en parler au programme de ce magazine régional le 18-19 en Champagne-Ardenne. Dominique Potard, le maire de Besanne, qui sera au micro de Jean-Pierre Benoît. Des rencontres également à faire ce soir. On continue de suivre l'actualité agricole avec Thierry Huet, le président de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Ardennes, qui sera là pour nous expliquer la situation dans le 08 et voir quels sont les mouvements prévus par les agriculteurs ardennais, notamment demain, mercredi. Nous serons aussi avec Cécilia Bellévert pour présenter les 400 coups du Palc à Chalon. Et puis on ira faire un tour du côté d'une exposition à Auger avec Jackie Colson. L'expo, c'est Parfums d'automne. Elle est actuellement au Salon du Champagne Chapuis à Auger, pour être tout à fait précis. C'est un rendez-vous que l'on vous donnera en deuxième partie d'émission. Elle nous accompagne pour cette soirée, Mélissa Tavares, notre stagiaire à la rédaction. Bonsoir.
Bonsoir.
Et puis à la mise en onde, je ne sais pas s'il va vouloir prendre le micro, vous avez entendu sa voix il y a quelques secondes, Fabrice Gironet est là, c'est grâce à lui si on peut aussi émettre ce magazine régional. Rebonsoir Fabrice.
Et c'est grâce aux auditeurs qui écoutent aussi.
Effectivement, c'est grâce à leur fidélité et on les remercie pour ça. 18h12 sur les ondes de RCF, on rentre dans le vif du sujet avec Jean-François Boulanger. Jean-François, bonjour.
Bonjour.
15e centenaire du baptême de Clovis, épisode 4. Dans notre dernière émission, vous nous avez expliqué de quelle façon on avait envisagé à un moment donné de donner une dimension européenne et non pas simplement française au 15e centenaire du baptême de Clovis. Vous nous avez également dit que cela n'était pas sans risque et que ce risque s'était matérialisé, notamment lors de la venue de Jean-Marie Le Pen à Reims le 6 septembre 1992. Jean-Marie Le Pen, qui était donc l'homme fort du Front National, pouvez-vous revenir sur cet événement?
Alors effectivement, donc le risque était celui de la récupération politique pour ce 15e centenaire, hein, on l'a dit d'emblée. Et justement, donc Jean-Marie Le Pen vient à Reims, la presse nationale d'ailleurs en parle, sans faire allusion d'ailleurs à la raison pour laquelle Jean-Marie Le Pen avait choisi de venir à Reims et pas ailleurs. Il avait annoncé qu'il comptait assister à la messe dominicale dans la cathédrale avant d'haranguer ses partisans sur le parvis de la même cathédrale. Et Mgr Balland avait alors décidé d'annuler la célébration religieuse pour éviter la récupération politique. Et le préfet, dans la foulée, avait décidé d'interdire au Front National de tenir meeting sur le parvis de la cathédrale. Et c'est cela qui avait amené la presse nationale à s'intéresser à la venue du leader du Front National à Reims. Par contre, la presse nationale, même des journaux comme Le Monde, par exemple, ou Libération, avait négligé l'aspect mémoriel de ce déplacement du leader du Front National à Reims et effectivement négligé de voir, d'envisager la manière dont l'aspect mémoriel du programme du Front National allait en quelque sorte permettre à ce dernier peut-être de mobiliser la mémoire du baptême de Clovis dans le cadre de sa campagne contre le traité de Maastricht.
Est-ce que l'on peut parler, Jean-François Boulanger, d'une opération réussie de la part du Front National qui a quelque part mis au second plan cet aspect mémoriel pour une récupération politique, puisque la presse n'en parle pas visiblement?
Oui, alors la presse n'en parle pas. Le Front National, justement, lui, par contre, en parle, parce que justement, parfois, et ça, on verra ça souvent à propos de ce 15e centenaire, on a l'impression parfois que dans la presse, on ne lit pas les communiqués faits par X ou par Y. Là, c'est par le Front National, mais ça pourrait être par l'Église de France à d'autres occasions. Parce que dans sa déclaration du bureau politique, le Front National disait le 2 septembre 1992, je cite, « Reims est le lieu sacré où commence l'histoire de France, voilà bientôt 15 siècles, par l'alliance de Clovis, roi de France, avec la population celte et latine, alliance sacralisée par le baptême, premier de tous les sacres. Et donc ce baptême, selon le bureau politique du Front National, je cite toujours, marque le lien irréductible qui existera entre le temporel et le spirituel, entre le ciel et la terre. Alors c'est intéressant aujourd'hui d'ailleurs, sur la question de la laïcité, de voir ce type de texte.
Justement, pourquoi rappeler cet événement en ces termes, en 1992 ?
Parce que c'est la campagne électorale sur le traité de Maastricht qui a été décidée, François Mitterrand avait décidé de faire un référendum sur ce point. Et donc, pour le Front National, c'est l'existence même de la France qui risquait d'être remise en cause par la ratification du traité d'Union européenne. Et à ce moment critique à ses yeux de la vie de la nation, il fallait revenir sur le lieu de sa naissance pour y prêter le serment de la défendre. Et d'ailleurs, le discours que Jean-Marie Le Pen a été publié par le quotidien Présent dans son intégralité sous le titre de « Discours du serment de Reims ». Et c'est toute la mémoire de Reims et de la France que Le Pen mobilise à cette occasion.
À quels autres événements fait-il allusion ?
Alors, à l'autre événement aussi qui marque Reims dans cette histoire, c'est-à-dire la venue de Jeanne d'Arc à Reims pour le sacre de Charles VII. Et à cette occasion, il fait un parallèle entre, je cite toujours, le honteux traité de Troyes par lequel la reine Isabeau de Bavière, félonne, confiait à Henri V le royaume de France et le complot de Maastricht, je cite toujours. Et le salut alors est venu de Jeanne et de ses compagnons qui, je cite toujours Jean-Marie Le Pen, ici même à Reims, ayant vaincu l'Anglais qui campait sur notre sol, ont restauré la souveraineté française par le sacre du roi Charles VII. Et donc Reims fut donc le lieu d'une première régénération, selon Jean-Marie Le Pen. Par ailleurs, autre événement mobilisé, la guerre de 14-18, parce que l'emploi du temps de Jean-Marie Le Pen, tel qu'il avait été initialement prévu pour la journée du 6 septembre, intégrer le souvenir de la Grande Guerre. Le président du Front National devait en effet commencer son voyage en Champagne en allant s'incliner dans le sanctuaire qui commémore à Dormans la victoire de la Marne, auquel d'ailleurs nous avons consacré des émissions, avant d'assister à la messe dans la cathédrale de Reims. L'archevêque de Reims en a décidé autrement en fermant la cathédrale et l'aspect religieux, et donc le danger de récupération politique de la religion, avait disparu.
Jean-François Boulanger, quelle vision générale Jean-Marie Le Pen donne-t-il de l'histoire de France dans ce discours ?
Alors, une vision très manichéenne qui oppose deux forces totalement opposées. On aurait envie de dire les forces du mal et la force du bien. Pour le chef du Front National, le référendum de Maastricht opposait, je cite, les nationaux, c'est lui, et les tenants du constructivisme mondialiste auquel il attribuait les révolutions qui ont secoué le monde depuis plusieurs siècles. Parmi eux, il dénonçait plus particulièrement François Mitterrand comme, je cite, « un maître de la cabale qui parsème la capitale de formes géométriques dont nous connaissons les fondements », allusion donc au bâtiment construit par Mitterrand, notamment l'Opéra Bastille. Et là, j'allais dire, on retrouve un thème sous-jacent qui est la dénonciation de la franc-maçonnerie qui renvoie au catholicisme intransigeant de la fin du XIXe siècle.
Est-ce que Saint-Remy va être mis en valeur par Jean-Marie Le Pen ?
Ben non, parce que nous, évidemment, c'est le personnage principal, c'est celui qu'on honore dans le diocèse, mais c'est plutôt le personnage de Clovis que Jean-Marie Le Pen veut exalter, parce qu'il a le souci de mettre en valeur les grands hommes, si je puis dire. Je cite Jean-Marie Le Pen toujours, « Les peuples ne forgent pas seuls leur destin, il faut pour les guider des héros, des sages, des saints et des martyrs, et parmi eux, Clovis, je cite toujours, la première figure du chef ». Ici, le président du Front National reprend en fait un thème classique de tout un courant d'extrême droite qui est également présent en fait au sein du Front National.
À quel courant faites-vous allusion, Jean-François
Alors,
Boulanger ?
Justement, un courant qui n'est pas vraiment catholique au sens religieux du mot qui se réclame du paganisme indo-européen que l'on appelait à l'époque la Nouvelle Droite. En effet, l'auditoire qui écoute Jean-Marie Le Pen le 6 septembre ne comprend pas que des chrétiens. On y trouve également Pierre Vial, secrétaire général du GRES, mouvement de la Nouvelle Droite, de 1978 à 1984, qui, tout en précisant qu'il n'était pas chrétien, avait appelé à manifester à Reims, parce que pour lui, la ville des sacres est par-delà les croyances le symbole de la souveraineté française. Il était donc normal à ses yeux que le Front National, qui est la synthèse des forces qui, au sein du peuple français, se mobilise pour sauvegarder l'identité française, je le cite, appela les Français à s'y rassembler.
Vous parlez de rassemblement, Jean-François. Quel a été l'impact immédiat du meeting que Jean-Marie Le Pen a tenu à Reims, à la limite du parvis où il ne pouvait le tenir, donc en raison de l'interdiction préfectorale ?
Alors, la manifestation, en elle-même a rassemblé, selon les estimations diverses, entre 1500 et 2000 personnes. C'est à la fois beaucoup et peu, parce que c'est un rassemblement qui se veut national, donc il y a des militants de toute la France qui viennent. Et au même moment, la veille, le mouvement Chrétien Solidarité, mouvement donc très proche du Front National, avait tenu une veillée de prière qui, d'après le quotidien présent, qui l'aurait sympathisant, n'a rassemblé que quelques dizaines de fidèles, et selon le quotidien L'Union, une trentaine. Donc il est difficile de dire que ça a été un mouvement véritablement de masse. Quel impact a-t-il eu sur la masse des catholiques? Ce qu'on peut, on ne sait pas, mais on peut remarquer que ce n'est pas la carte du non au référendum du 20 septembre, mais plutôt celle du oui, qui se rapproche le plus de la carte de la pratique religieuse. Et ce qui est certain, en tout cas pour notre sujet, c'est-à-dire la commémoration du 15e centenaire du baptême de Clovis, c'est que le thème de l'Europe ne peut plus être désormais un thème fédérateur dans le cadre de la commémoration à venir du baptême de Clovis. Il va falloir effectivement en chercher un autre.
Merci Jean-François Boulanger de nous avoir éclairé. Est-ce qu'on continuera d'évoquer le baptême de Clovis la semaine prochaine?
Absolument, parce qu'on n'a pas trouvé le thème encore sur lequel commémorer. Mais la semaine prochaine, je pense qu'on en saura davantage.
Effectivement, et ça promet encore quelques belles suites. Merci Jean-François Boulanger, à très bientôt.
À très bientôt.
Le 18-19 sur RCF.
18h21 dans le magazine régional RCF Cœur de Champagne, RCF Reims-Ardennes. On prend la direction de Besanne, retrouver le maire Dominique Potard qui nous parle ce mardi avec Jean-Pierre, évidemment.
Dominique Potard, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Benoît.
Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai que vous êtes maire de Besanne. Alors quand on parle Besanne, on va en parler, on pense bien sûr à la clinique aujourd'hui. Mais Besanne, c'est combien d'habitants en fait, Dominique Potard?
Alors officiellement c'est 3500 habitants, mais c'est bien loin de la réalité puisqu'on est environ 5000 et que d'ici 2027, compte tenu des logements à livrer, on devrait être plus de 6000 habitants.
En ce moment, Besanne est en train de se transformer, c'est incroyable, on a connu des champs il y a quelques années, mais là, bon d'abord la clinique de Besanne, c'est la première de France.
Ouais, la clinique de Besanne, la première de France, elle continue encore à se développer. Puisque bah, elle attire, on va dire, les patients de toute la région élargie, hein, de la Meuse, des Ardennes, de l'Aisne, et voire de région parisienne, et de la Marne, bien sûr. Donc c'est quelque chose qui est une attractivité très très intéressante pour la commune, en plus de la gare TGV.
La gare TGV, la clinique, et puis aussi les sièges de très nombreuses entreprises qui ont pignon sur rue, à la fois régionalement, mais aussi nationalement, hein, faut le dire.
Oui, oui, puisqu'on a des grosses entreprises. On a Cristal Union, on a Mazars, on a Frey, qui est quand même dans l'immobilier international. Ouais, on a des grosses entreprises qui ont choisi Besanne pour son positionnement au niveau des nœuds interroutiers et ferroviaires, et puis pour une lisibilité par rapport au Grand Reims et à la région Grand Est.
Et à côté de tout cela, les entreprises, les cliniques, il y a aussi des habitations. Il y a beaucoup actuellement de création de logements à Besanne, de logements neufs, enfin c'est assez exceptionnel aussi.
Oui, alors on est vraiment dans une expansion démographique exceptionnelle, on peut dire, voilà, je vais reprendre votre mot exceptionnel. Bon, alors ça va quand même se calmer un petit peu, puisque faut qu'on arrive à absorber au niveau des services toute cette nouvelle population, mais il est encore prévu une livraison de 700 logements dans les 3 ans à venir, quoi.
Mais alors comment on reçoit des maires tous les jours, qui sont d'ailleurs très, très, très gentils, très sympathiques, qui nous expliquent leur commune, parfois de 150, 160 habitants, 200 habitants. La population n'évolue pas beaucoup. Mais vous, à Besanne, en tant que maire, vous vous trouvez dans une situation d'une commune en pleine expansion. Alors comment faites-vous, monsieur le maire? Parce que vous devez être un peu partout en même temps.
Alors, un peu partout en même temps, il faut penser à combler les retards qui ont été pris, hein, voilà, faut appeler un chat un chat, et puis anticiper sur les nouveaux besoins qu'il va falloir satisfaire, parce que avoir de la population, c'est bien, mais on doit mettre en face les services en adéquation. C'est notamment pour ça qu'on est en train de construire une seconde école pour pouvoir répartir correctement les élèves sur l'ensemble du territoire.
Et vous, Dominique Potard, vous êtes maire depuis combien de temps de Besanne?
Depuis les dernières élections, depuis 2020, en plein Covid, je suis arrivé aux commandes de cette commune magnifique.
Alors c'est tout de même pas facile, on peut vous saluer une deuxième fois, d'arriver à la tête d'une commune comme Besanne en pleine expansion, en pleine épidémie. Ça n'a pas dû être facile non plus à gérer.
Non, non, ça n'a pas été facile. C'est pas le meilleur moyen de commencer à appréhender les difficultés d'une commune et de sa population. Non, ça n'a pas été simple. Mais quand on décide de prendre la charge d'une commune, forcément, on s'attend bien à ce que ça soit pas tous les jours tout à fait rose, quoi.
On se rend compte quand on arrive dans Besançon, quand on vient de, qu'on appelle la voie du Rouillard, puis qu'on arrive vers la gare TGV, on s'aperçoit aussi que il y a eu de la restauration des commerces, parce que toute cette population qui travaille, il faut bien qu'elle déjeune. Est-ce qu'on arrive quand même dans des communes nouvelles comme ça à créer un centre de vie quand même un peu différent?
Alors, c'est une de nos préoccupations au quotidien. On a la chance d'avoir le Courlanges, qui est une zone tout à fait piétonne, où il y a un certain nombre de commerces qui s'y sont installés. Et c'est aussi un de nos défis à nous, c'est d'essayer de le faire vivre au maximum pour que ce soit un peu un centre de vie de tous les habitants et de rassemblement. C'est notamment sur cette place qu'on a un marché hebdomadaire tous les jeudis soirs.
Alors, quels sont, Dominique Potard, alors des projets, vous devez en avoir plein dans les tiroirs et dans les cartons, mais quels sont ceux qui vous tiennent particulièrement à cœur en ce moment, qui sont en cours ou qui vont démarrer dans quelques jours ou dans quelques semaines?
Alors, celui qui nous tient particulièrement à cœur, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est cette seconde école pour laquelle on espère une ouverture pour la rentrée 2024, puisque il faut savoir que depuis quelques années, on a entre une et deux classes supplémentaires chaque année, donc il faut y faire face. Après, on a bien estimé les besoins pour la commune, donc on sait qu'on a besoin d'un gymnase, on sait qu'on aurait besoin d'un terrain synthétique pour le stade de foot, on sait qu'on a besoin d'un troisième court de tennis, on a besoin d'agrandir les espaces associatifs. Donc tout ça, c'est un peu dans les cartons. On essaye d'avancer sur ces projets tranquillement et sereinement parce que, évidemment, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Par contre, dans les projets concrets qui vont arriver, on va mettre des panneaux solaires, des panneaux photovoltaïques sur les toits de nos services techniques. Et avec ça, l'électricité produite pourra nous permettre d'alimenter dans la journée tous nos bâtiments communaux.
Alors ça, c'est une belle innovation, Dominique Potard. Et puis aussi, on a l'impression dans ces villes nouvelles que on a quand même une autre manière de voir l'habitat, quoi. On voit bien qu'on est dans un monde un peu nouveau, quoi. C'est vrai, par rapport aux communes traditionnelles où on se retrouve avec des maisons classiques, etc. Là, c'est autre chose.
Alors, il faut savoir que nous, on a quand même des lotissements qui sont, on va dire, classiques, hein, voilà. Mais par contre, on a des immeubles collectifs qui, notamment, que ce soit de l'accession à la propriété ou que ce soit du locatif, hein, qui sont tous avec des balcons, avec un petit endroit où les gens puissent un peu s'aérer et profiter de l'air ambiant. Donc, parce que ça, c'est une demande forte, notamment après le Covid, hein, faut l'avouer. Et puis, puisqu'on parle d'habitation, on va avoir sur Besançon une première française, sinon européenne. On va avoir un immeuble de plusieurs étages qui va être construit avec une imprimante 3D. C'est-à-dire que le béton va être coulé par une imprimante.
Mais ça, c'est une innovation exceptionnelle, ça, Dominique Potard. J'en ai jamais entendu parler, pour ma part.
Ah ben non, c'est tout à fait, je vous dis, c'est une grande première, c'est pour ça qu'il y a des tests qui sont faits, il y a des validations.
En tout cas, dans le département de la Marne, hein, je parle à un autre niveau.
Non, c'est au niveau français, voire européen, c'est une première. C'est pour ça qu'on a fait une conférence internationale à ce sujet, parce que forcément, en France et à l'étranger, les gens sont très intéressés de voir concrétiser cette grande première.
Oui, parce que quand vous dites en béton, ça veut dire que l'immeuble lui-même, on n'imagine pas trop, hein, il est construit comme cela.
Ouais, c'est comme une imprimante. L'imprimante, au lieu de couler de l'encre, enfin, pour ceux qui connaissent un petit peu les imprimantes 3D où on coule du plastique, là, au lieu de couler du plastique, on va couler du béton.
Oui, mais enfin, quand on est, Dominique Potard, quand on voit les petites imprimantes qui font du 3D, c'est parfois des choses de 20, 30, 40, 50 centimètres. Mais là, vous êtes en train de nous parler d'une tour. Combien d'étages?
Alors, c'est prévu de mémoire deux étages, enfin oui. Trois étages avec le rez-de-chaussée.
Donc c'est quand même autre chose, c'est une autre dimension.
Tout à fait, c'est pour ça que c'est une première en France, et voire en Europe.
Dominique Potard, on a tellement de choses à nous dire que je vous proposerai prochainement, alors que normalement on va faire bien sûr circuler, comme on dit entre guillemets, plusieurs maires. Là, on a tellement de choses à dire à propos de Besançon que je vous proposerai dans quelques semaines, dans trois semaines peut-être, de revenir. Parce qu'on n'est pas arrivé au bout, et nous on est au bout de notre émission. Simplement, je vous pose la question, comme je le fais avec tous les maires, êtes-vous un maire heureux, Dominique Potard? Oui, quand même.
Oui. De toute façon, quand on choisit d'assumer ses fonctions, il faut regarder le bon côté des choses et voilà, essayer de faire du bien aux gens, essayer d'offrir des services. Et enfin, construire une école, c'est quand même des projets valorisants. C'est quand même voilà, ça nous donne de la satisfaction. Et voilà, si on n'est pas heureux, se lever le matin pour venir au bureau, ça serait compliqué.
Merci Dominique Potard d'avoir été avec nous et à bientôt sur RCF.
Et ce soir, Jean-Pierre, on vous a laissé aller au bout avec votre maire et à 18h30 pétante, on lance le journal régional. Les titres de ce mardi 30 janvier, 110 ans après l'incendie, la porte du tabernacle réintègre l'église de Marçon près de Châlons-en-Champagne. Explication. Arrivé depuis 4 mois, François Schneider est le nouveau procureur de la République de Reims. Retour sur son installation.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Je pense qu'on peut le dire comme ça, samedi dernier, les habitants de Marçon avaient rendez-vous avec l'histoire. Située près de Châlons-en-Champagne, cette petite commune de 300 habitants, accompagnée de la paroisse Saint-François de Sales des Motets, ont organisé la cérémonie de bénédiction de la porte du tabernacle de l'église de Marçon, sauvée de l'incendie pendant la Première Guerre mondiale, comme nous l'explique son maire, Noël Voisin d'Ilacroix.
On la découvre l'an dernier par un courrier qui arrive au diocèse de la part de Monsieur Bernard Basse en disant son grand-père a, en 1914, récupéré pour la sauvegarder la porte du tabernacle de l'église de Marçon qui vient d'être incendiée par les troupes allemandes. Là-dessus, on prend contact et sur à l'arrière de cette porte chez Monsieur Basse, il avait un appareil photo, il a pris des photos. Et donc en 1914, ça devait être assez rare quand même, quelqu'un en armée qui avait un appareil photo, et il photographie les ruines de l'église et il écrit manuscrit dessous, ruines de l'église de Marçon. Et il colle ça derrière cette porte du tabernacle qu'il emporte et qu'il laisse chez lui, qu'il l'a transmise à son fils. Et c'est ses petits-enfants qui, aujourd'hui, en avaient l'héritage et qui se sont posé la question en disant « Que faire de cet objet ?» Monsieur Basse Bernard a donc fait ce courrier au diocèse qui me l'a transmis. On a regardé la photo et il y a vraiment c'est la similitude. On retrouve bien les piliers d'église, la porte, deuxième porte d'accès. Enfin, le doute était levé, quoi. Donc, à partir de là, on a accepté la restitution. On a décidé de la remettre dans l'église.
Des propos recueillis au téléphone par Christopher Fausten de RCF Cœur de Champagne, 110 ans après l'incendie du village, le conseil municipal de Marçon a décidé de remettre la porte dans l'église, reconstruite et inscrite au monument historique depuis 1915. Les manifestations agricoles se poursuivent à travers toute la France et ce mercredi, les agriculteurs marnais veulent prendre la direction de Paris. Des rassemblements sont prévus en milieu de nuit pour rejoindre la capitale d'ici demain matin. Les barrages filtrants sont maintenus, l'autoroute A4 en direction de Paris devrait être bloquée aussi. En revanche, sur l'axe Sedan-Bouillon entre France et Belgique, le barrage filtrant a été levé en début d'après-midi. À noter que des manifestations ont eu lieu dans le cœur de Charleville-Mézières aux alentours de 17h. Elles sont en train de se terminer tout doucement. On vous disait hier soir, Arnaud Robinet, maire de Reims, a été élu président de la communauté urbaine du Grand Reims avec 159 voix contre 25 pour son opposant Charles Gossard, maire de Fismes. Il sera entouré de 14 vice-présidents, 45 membres au total pour l'accompagner dans ses nouvelles fonctions. Premier gros chantier pour Arnaud Robinet, les transports et les accords avec Grand Reims Mobilité. Il reçoit depuis 17h la CGT sur la question de l'offre de tramway qui affirme par voie de communiqué de presse que seule une écoute attentive de sa part pourra lever la grève. Et à Reims, toujours, le nouveau procureur de la République de Reims a été installé récemment. Notre stagiaire à la rédaction, Elsa Gillot, revient.
C'est depuis le 18 janvier que François Schneider a été officiellement installé en tant que procureur du tribunal de Reims. Son installation, en présence de représentants de la justice, lui a permis de se présenter auprès de son parquet.
Je suis un fan de numérique de façon générale et je pousse en ce sens. Je suis un procureur très organisé. Et je pense avec une certaine bienveillance. Mais bienveillance, je rappelle toujours, n'est pas complaisance.
C'est durant son discours d'installation que François Schneider a fait part de ses priorités pour le parquet de Reims.
Sans grande originalité, elles seront les violences au sein du couple et les violences de façon générale d'ailleurs et notamment vis-à-vis des enfants qui sont parfois un peu les parents pauvres des politiques pénales. Sans originalité non plus les trafics de stupéfiants et j'insiste particulièrement sur la nécessité de procéder à encore plus de saisies d'avoirs criminels qui est un peu le nerf de la guerre et le cœur de toute lutte contre les trafics de façon générale de stupéfiants ou d'autres.
C'est suite au départ de Mathieu Bourrette que François Schneider est arrivé à Reims il y a déjà 4 mois. Ce temps lui a donc permis de constater ce qu'il se passait au sein de la juridiction rémoise.
Alors beaucoup plus d'activités au quotidien que ce que je pouvais imaginer vu de loin. Des fonctionnements totalement différents de ceux évidemment du sud dont je viens, mais malgré tout avec énormément de violence, avec des problèmes de trafic de stupéfiants et de violence entre bandes rivales qui sont quand même assez étonnants ici et auxquels je ne m'attendais vraiment pas. Le reste bien entendu malheureusement, beaucoup trop de violence conjugale, beaucoup trop de violence en général, mais c'est le lot d'à peu près tous les ressorts.
Des propos recueillis au micro de RCF Reims-Ardennes d'Alexis Claudretz. A noter que l'installation du nouveau procureur a également été l'occasion d'installer sa vice-procureure Mathilde Campagny.
Un sujet proposé par Elsa Gillot, qui était notre stagiaire à la rédaction ces 2 dernières semaines. Cette semaine et pour quelques jours, quelques semaines d'ailleurs, c'est Mélissa Tavares qui nous accompagne. Ça va Mélissa ?
Ça va et toi ?
Ça va toujours, merci. On vous retrouvera d'ici quelques jours à l'antenne pour présenter notamment la météo à nos auditeurs. Et puis c'est l'occasion aussi de saluer Thomas qui fait un stage en technique avec nos amis Thierry et Fabrice, mais qui n'est pas là ce soir pour le direct, que l'on retrouvera dans les prochains jours, puisque l'on est sur l'activité rédactionnelle. Pour nos auditeurs, sachez que demain sur RCF Reims-Ardennes, à 7h et à 8h, notre invité grand format pendant 30 minutes sera Vincent Stanek, le recteur de l'Académie de Reims. Évidemment, pour nos auditeurs en région et sur le DAB+, vous aurez la possibilité de l'entendre dans le magazine régional, tout simplement, de 18h10 à 19h. C'est tous les soirs du lundi au vendredi. Et en DAB+, le rendez-vous, c'est dès 7h du matin également. Et puis, puisqu'on est sur cette page rendez-vous, jeudi matin, c'est Arnaud Robinet que vous entendrez sur RCF Reims-Ardennes à 7h et à 8h. Pareil, un long format, le maire de Reims et le président de la communauté urbaine du Grand Reims qui sera également rediffusé le soir pour nos auditeurs en région. Voilà pour les rendez-vous à noter dans l'agenda. Ainsi se referme ce journal, le 18-19 en Champagne continue sur RCF.
Le 18-19
tous les jours
sur RCF
à Reims,
Châlons, Charleville-Mézières.
Vous nous écoutez depuis Charleville-Mézières, Sedan, Sainte-Menou, Épernay, Cézanne, Troyes, Romilly-sur-Seine, où que vous soyez, peut-être même à Saint-Dizier ou à Chaumont, pourquoi pas si vous êtes en voiture ou si vous nous écoutez par le DAB+, parce que oui, c'est possible Fabrice, avec les plaques DAB+, eh bien on vous emmène voir une exposition depuis le 17 janvier. Une exposition intitulée « Parfums d'automne » est proposée par le peintre AG1, Jackie Colson, dans la salle d'accueil du Champagne Chapuis à Auger. Dessinant depuis sa tendre enfance, Jackie Colson propose de belles couleurs au coteau qu'il visualise tous les jours. Jackie Colson est au téléphone avec Gérald Gaillet.
Jackie Colson, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, on va dire, sparnassien et vous exposez au Champagne Chapuis à Auger jusqu'au 7 avril.
Très bien.
Et vous êtes quoi, dessinateur, peintre ?
Je me considère avant tout comme un dessinateur, un croquiste. Mais la peinture m'apporte beaucoup de plaisir de par la couleur, la composition. Voilà maintenant par loin de 60 ou 70 ans, je ne compte plus les années, que je dessine et que je peins. Et je voyage beaucoup aussi, si vous voulez. On me considère presque comme un peintre voyageur, parce qu'à partir de toutes mes escapades à travers le monde, je ramène énormément de croquis. Je fais beaucoup de rencontres, justement, et ce qui me permet de travailler ensuite sur des thématiques à partir de, justement, de ces voyages et de ces croquis.
Pour Auger, vous nous proposez Parfums d'automne.
Alors là, par contre, mon voyage a été beaucoup plus court parce que je suis habitant d'Aïn, puisque j'avais rencontré mon épouse qui était AGN et nous nous sommes installés à Aïn depuis une quarantaine d'années. Et donc, j'ai l'habitude de traverser les coteaux qui sont maintenant classés à l'UNESCO depuis 2015 et de les apprécier, de les avoir dessinés et peints. Et ce thème que je présente donc chez au Champagne Chapuis, que j'ai appelé Parfum d'automne, c'est avant tout un thème qui nous incite à voir les coteaux à une période que moi je préfère, c'est-à-dire l'automne. Pourquoi l'automne? Parce que la vigne a rendu, si vous voulez, le bénéfice de sa production au vigneron. Et ensuite, elle va se reposer. Et son repos permet de découvrir des couleurs qui me conviennent et qui sont magnifiques, qui mettent en valeur, justement, tout le modelage de tous ces coteaux, ces mouvements de culture et cette lumière que l'on retrouve principalement en automne.
On est plus dans le rouge?
Alors, naturellement, on va être dans des couleurs très chaudes, dans une palette de rouge, de jaune, d'ocre. Hein, et donc, c'est toute une composition. Ce travail a été fait totalement en atelier, de par ma mémoire avant tout. Et je laisse suggérer un peu les lieux qui ont été peints, en fait. Je ne veux pas faire, si vous voulez, une photographie de ce paysage. C'est avant tout une interprétation.
Jackie Colson, vous êtes présent quelquefois dans la salle d'exposition du Champagne Chapuis?
Ben, je serai présent le jour du vernissage et puis ce rendez-vous, hein, on a prévu avec la famille Chapuis d'avoir des rendez-vous pour les personnes intéressées, principalement les week-ends. Donc les gens prennent rendez-vous, téléphonent et puis en fonction de leur présence, je serai aussi moi présent.
Par ailleurs, vous avez une responsabilité de peintre quelque part?
J'aime beaucoup m'investir. Donc, j'ai été président du groupe Créer des Pernets pendant une quinzaine d'années, mais je m'applique aussi dans l'organisation du festival Vigne Art depuis 4 ans ou 5 ans. J'organise à Aix-Champagne un festival d'art plastique en alternance avec les fêtes Henri IV, donc tous les 2 ans, qui s'appelle Artitude. Et puis, j'aime à travers mes escapades, comme je vous disais, à travers le monde, je rencontre beaucoup d'artistes, je participe à beaucoup de salons, beaucoup d'expositions, principalement sur le Burkina Faso, en Afrique, et puis au Maroc, où j'ai déjà fait plusieurs résidences.
Jackie Colson, merci.
Je vous remercie.
L'exposition de dessins et peintures de Jackie Colson, Parfum d'automne, est visible au Champagne Chapuis à Auger jusqu'au 7 avril prochain, aux heures d'ouverture du caveau de 9h à midi, de 14h à 18h, le tout du lundi au vendredi, sur rendez-vous le week-end, 03 26 52 51 30. 03 26 52 51 30.
Le 18-19 sur RCF.
Le monde agricole bouge constamment ces dernières heures. Thierry Huet, président de la FDSEA des Ardennes, la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles, est notre invité pour évoquer la situation. C'est au micro de Jean-Pierre.
Thierry Huet, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors c'est vrai, les agriculteurs sont sur la brèche, tout le monde s'interroge, on parle de Paris, on parle de blocage. Où en est-on exactement aujourd'hui, même si la situation, bien sûr, évolue à tout instant?
Aujourd'hui, on en est dans des situations très compliquées. Les actions qui continuent à être menées sur les territoires amènent effectivement à un blocage de Paris, d'une part, amènent aussi à des actions de territoire qui se renforcent de jour en jour pour faire pression sur le gouvernement. Les agriculteurs sont déterminés à se faire entendre auprès du gouvernement pour que, justement, la mesure de leurs problématiques, qui ne datent pas d'hier matin, qui datent de très nombreuses années, finalement, soit entendu avec des réponses concrètes, rapides et à la hauteur des attentes.
Le Premier ministre Gabriel Attal, en Haute-Garonne, avait annoncé un certain nombre de mesures concernant les normes. Il semble qu'elles puissent satisfaire un certain nombre d'exploitants agricoles, mais encore que beaucoup de choses restent à faire. Mais on se rend compte que beaucoup de décisions sont européennes. Comment la France peut-elle prendre des décisions ou des mesures alors que finalement elle n'est pas pilote au bord?
Je me permets de revenir pour, je pense, mieux comprendre. Première des choses, c'est que le mal-être agricole aujourd'hui, il a 3 axes. Premier axe, je dois, donc ça c'est finalement ce que j'attends, ce que nous attendons de l'issue de cette crise, entre guillemets, c'est que nous devons retrouver la fierté. Je dois être fier d'être paysan. Mes enfants doivent être fiers d'être des fils de paysans. Première des choses. Deuxième des choses, c'est de pouvoir vivre de son métier. Troisième des choses, c'est effectivement d'arrêter cette surcharge administrative, qui est un poids pour l'agriculture, mais qui est aussi un poids pour tout un chacun. Exemple précis, la semaine dernière, je discutais avec des gendarmes qui me disaient qu'ils passaient un temps important à faire de la paperasserie. Cette réalité nous amène effectivement face au gouvernement à des questions avec parfois un gouvernement qui nous dit « c'est pas moi, c'est l'Europe ». La réalité, c'est qu'on a effectivement des décisions ou plutôt des normes qui sont locales, des normes qui sont nationales, des normes qui sont européennes. Exemple, la jachère, c'est européen. Oui. Mais exemple, l'OFB, et donc la maîtrise de l'OFB, c'est bien local. Donc il y a des niveaux différents et à chaque fois, il faut qu'on mesure et qu'on ait des actions qui soient précises par rapport à nos mandats. L'Europe ne peut pas tout faire, mais l'Europe est effectivement, sur un certain nombre de points, un élément important, charge pour l'Europe notamment, à notre gouvernement, d'être présent, d'être force de proposition, et puis d'être aussi vigoureux avec ses autres acteurs. Exemple précis, sur la jachère par exemple, il y a encore un mois, une dizaine de pays suivaient la France. Aujourd'hui, a priori, on aurait plus de 22 pays qui suivraient la position française.
Alors ça veut dire, je vous interromps Thierry Huet, ça veut dire, bon, il y a des compétences européennes, des compétences nationales, des compétences locales, mais la France peut quand même, avec son poids au niveau européen, peut influencer la politique européenne en matière agricole. Elle n'est pas obligée de dire oui, et surtout, elle n'est pas en étant un peu familier, d'en rajouter une louche à la fois ce qu'on appelle la surtransposition des normes qui, finalement, nuisent à tout le monde.
Vous avez tout à fait raison. La France doit peser de son poids, mais qui est un élément parmi tant d'autres. Donc c'est à nous de persuader, de travailler avec les autres, et on s'aperçoit que le sursaut agricole européen est concrètement là, puisque tous les pays sont presque aujourd'hui en action. Tous les agriculteurs sont aujourd'hui en action.
Il y a quand même un sujet aussi qui est mis en avant, c'est l'écologie, l'environnement. Or, vous le dites souvent à notre micro, Thierry Huet, l'agriculteur, il est parfois le premier écologiste, le premier aménageur du territoire. J'ai entendu l'autre jour à la télévision, je ne sais pas si c'est exact, Thierry Huet, qu'actuellement, on ne produisait pratiquement plus de cerises en France et qu'on était obligé d'en importer parce que les normes sont tellement considérables qu'on ne peut plus être concurrentiel sur le plan mondial. Et donc, c'est quand même un problème. Alors que d'autres pays européens ne font pas forcément exactement la même chose.
Vous avez raison, l'écologie est une priorité. L'écologie est une priorité, les enjeux climatiques, les enjeux énergétiques, ce sont des priorités pour nous, pour nos enfants, pour la planète. Ce sont des priorités, nous en sommes conscients, nous en sommes les acteurs. Derrière, effectivement, il y a ce que je vais appeler un courant idéologique extrême qui voudrait faire croire que, et notamment, exemple précis, au travers de l'exagération des normes et des règles, peut-être dans un bon esprit au départ, nous amène à des hérésies totales et à la question « on marche sur la tête ». Effectivement, aujourd'hui, cerises par exemple, nous n'arrivons plus à en produire en France, nous sommes obligés de les importer, eh bien c'est aussi un bilan carbone, c'est aussi la production en moins, et puis quelque part de la biodiversité qui disparaît, puisque la production de cerises fait partie de la biodiversité de nos territoires.
Et on se souvient d'une époque, moi dans ma jeunesse, donc il y a quand même quelques années, il faut bien l'avouer, Thierry Huet, des cerises on en trouvait dans nos régions, dans nos Ardennes. On se souvient de tous ces écoliers qui mettaient les cerises autour de leurs oreilles, il y en avait plein.
Bien sûr, mais c'est vrai qu'après il faut aussi avoir le courage de dire que un des enjeux majeurs, ou plutôt une des problématiques majeures, ça a été la mondialisation. Ensuite, on peut ajouter la standardisation, l'industrialisation et tous ces mots un peu compliqués qui s'opposent à la proximité et surtout au bon sens.
Mais est-ce que derrière tout ça, Thierry Huet, on ne veut pas la disparition des petits agriculteurs et avoir des agriculteurs, j'allais dire, vraiment presque industriels, enfin, vous voyez ce que je veux dire, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de grands exploitants, mais je veux dire qu'on tend à ça, à une uniformisation, et après tout le monde pleurera.
Je vous avais tout à fait raison, et c'est pour ça volontairement que j'utilisais ces trois mots, mondialisation, standardisation, industrialisation, et quelque part, mettons-nous tous, nous consommateurs, nous le sommes tous, les agriculteurs le sont aussi, en tant que responsables, puisqu'on veut de plus en plus des produits standardisés, normés, hygiénisés, et puis tout ce que l'on veut. Tout ça amène effectivement à des excès, à des extrêmes qui sont délétères. revenons à une plus grande proximité, revenons à des consommés locales. Je ne suis pas que pour le circuit court. Nous n'allons pas tous aller acheter nos fruits au bout de notre rue. C'est pas ça la question. Mais la question malgré tout, c'est de revenir à ce que l'on peut faire. Arrêtons de rêver et puis de croire que aujourd'hui, la production et nos producteurs de territoire ne sont pas les premiers destructeurs de l'environnement de la planète.
Thierry Huet, il faut dire que dans l'opinion, on le voit par rapport à d'autres mouvements sociaux, les agriculteurs ont une image très positive chez les Français. Et les Français, j'allais dire, soutiennent ce mouvement parce qu'ils savent que derrière lui, eh bien, c'est un peu une partie de leur territoire, de leur pays, de leur enfance aussi qui tente à disparaître. Est-ce que vous partagez cette opinion ?
Je partage tout à fait. Je partage tout à fait ça. L'agriculture fait partie de la culture. Et d'ailleurs, dans le mot agriculture, le mot culture est présent. L'agriculture fait partie de la culture de nos territoires. Nous en avons tous, de près ou de loin, citadins de Paris ou moi dans ma ferme, une proximité intellectuelle personnelle. Ça, c'est un fait. Mais la difficulté que nous avons sur cette proximité, c'est aussi la question alimentaire.
Merci en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et alors, on se tient au courant, comme on dit. Hein.
Bien sûr.
Et évidemment, sur RCF, on continue de suivre de près le mouvement agricole. Merci Thierry Huet, merci Jean-Pierre.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
En ce début d'année 2024, le PALC de Chalon en Champagne propose à partir de demain, mercredi jusqu'au 3 février, une nouvelle édition des 400 coups, une manifestation familiale pour les petits et les grands. Pour nous en parler, Cécilia Bellevert, responsable communication et relations presse au PALC et Fury, au micro de Christopher Fausten.
Bonjour Cécilia Bellevert.
Bonjour Christopher.
Chargée de communication au PALC à Châlons-Champagne, pôle national du cirque. Merci d'être avec nous une fois de plus dans les studios de RCF à Châlons-Champagne pour nous présenter plusieurs rendez-vous, mais surtout le rendez-vous qui arrive très prochainement, les 400 coups, une cinquième année pour ce rendez-vous organisé par le PALC. Est-ce qu'on peut présenter brièvement un petit peu l'origine de cet événement, les 400 coups? D'ailleurs, comment est venu le nom des 400 coups?
Avant, il y avait donc porté par Fury un événement qui s'appelait Clown et Marionnettes et où étaient à l'honneur du coup les disciplines de marionnettes et de clowns. Et avec l'arrivée du PALC, on a voulu créer un moment pareil dédié aux petits et aux grands, un moment un peu festif où on pouvait faire voilà toutes les bêtises qu'on avait envie, retrouver un peu notre esprit d'enfance, de légèreté, en disant les mots un peu simplement, sans prise de tête.
Oui.
Voilà, laisser faire les choses et aller où nous mène notre imagination. Et donc les 400 coups, ça tombait plutôt bien et c'est une petite référence à un certain film qui s'appelle aussi les 400 coups.
Et donc cinquième année pour cet événement du côté de Châlons-Champagne, du 31 janvier au 3 février, 5 résidences au programme destinées au jeune public, enfin à tout public on peut dire même Cécilia.
Alors, on va avoir pendant ces 400 coups donc plusieurs spectacles dont une sortie de résidence, donc une étape de travail d'un spectacle qui est en cours de création, qui est destiné bien évidemment au jeune public, puisqu'on travaille en étroite collaboration avec les écoles élémentaires, les collèges, les lycées, puisqu'il y aura des ateliers qui sont faits directement avec les compagnies et les spectacles sont joués à l'intérieur des écoles ou alors les élèves viennent voir les spectacles sur des temps dédiés en temps scolaire pour découvrir en fait le travail des artistes. Du coup, on a plusieurs spectacles. On a la journée du mercredi, on va avoir la compagnie Quand je vale avec Ploc, où on va avoir un acrobate seul en scène qui va vouloir revisiter. En fait, il va vouloir faire un peu comme son héros Jackson Pollock et peindre un peu comme lui. Donc vraiment, c'est de la peinture, un peu de théâtre, beaucoup de cirque et beaucoup d'humour. Donc voilà comment en fait essayer de peindre comme Jackson Pollock. Je vous invite à le découvrir du coup le mercredi 31 janvier à 16h. Ça sera au CSC La Vallée Saint-Pierre à Châlons en Champagne. Et on poursuit la soirée avec le spectacle Time to Tell de la compagnie Lunichambiste, portée par Martin Palis à 20h30, cette fois-ci à la salle Rive Gauche. On vous invite donc là à découvrir un spectacle aussi, un duo cette fois-ci, interprété par David Gauchard et Martin Palis, qui est jongleur, et qui va nous parler de sa maladie, la mucoviscidose. Donc également à partir de 10 ans cette fois-ci.
Oui.
Pour ce spectacle-là.
Donc en fait, c'est deux spectacles qui vont s'enchaîner
oui,
le même jour, on peut dire, le 31 janvier.
On peut faire les deux.
On peut faire les deux.
L'un à 16h, l'autre à 20h30.
Voilà, même si ce n'est pas au même lieu, en tout cas, il y a possibilité d'enchaîner ces deux rendez-vous déjà.
De faire une après-midi et un début de soirée circassien.
Et d'autres rendez-vous, c'est le 3 février, cette fois-ci la sortie de résidence.
Tout à fait. On a une sortie de résidence donc qui va être jouée à 9h15 et à 11h15 à l'espace culturel de la Chapelle à Saint-Mémy. C'est en accès libre. Par contre, petite subtilité, c'est sur réservation puisque c'est à destination des enfants de 0 à 3 ans, bien évidemment accompagnés de leurs parents. Et donc, c'est un spectacle qui est dédié vraiment au jeune, très jeune public qui dure 15 minutes. C'est un diptyque. Là, ils vont vous montrer la première partie en fait de ce diptyque où on s'intéresse en fait au fonctionnement du métabolisme du corps humain.
D'accord.
Voilà, sur le côté intérieur, mais aussi le côté extérieur, le côté relationnel de la singularité des autres.
En 15 minutes.
Alors, c'est pour ça que c'est un diptyque.
D'accord.
Puisqu'il y aura deux fois 15 minutes, mais d'accord. Là, cette fois-ci, on va découvrir qu'une seule partie, puisque c'est une sortie de résidence, donc une étape de travail.
Très bonne idée.
La compagnie n'a pas encore terminé de créer. Et donc, on a cette possibilité-là, comme c'est une jauge réduite, et que c'est surtout à destination du très jeune public, ça va être en petite jauge.
Alors, comment réserver pour ce rendez-vous du 3 février ?
Alors, vous pouvez directement réserver sur lepalque.fr, sur la
d'accord.
billetterie, directement en ligne. Et si vous voulez plus d'informations, vous nous appelez à nos bureaux, donc au 03 26 65 90 06, et on répondra à toutes vos questions.
Et donc ça, c'est le matin. Et l'après-midi, enfin fin de journée de ce 3 février, un autre spectacle où là, on a un petit peu mélange de cirque et de musique du côté de Rive Gauche à Chaland.
Tout à fait, on vous invite à 18h à la salle Rive Gauche avec la compagnie Les Complémentaires portée par Basile Forest, ancien étudiant du CNAC, membre de la compagnie voilà, que vous avez pu voir avec XY, qui nous présente donc « Car tous les chemins y mènent ». Il revisite à sa façon, avec son violon, l'opéra de Bizet, Carmen. Je vous invite vraiment à le découvrir. Donc, c'est un spectacle tout public qui se jouera le samedi donc 3 février à 18h à la salle Rive Gauche.
Et on termine sous le chapiteau de la caserne Chanzy à 20h30 avec un autre spectacle circassien.
Tout à fait. Donc là, c'est porté par de jeunes artistes, donc Lucie Yerles et Gaspard Schell, qui vont nous présenter le solo à 20h30 sous chapiteau aux casernes de Chanzy. On va y découvrir, donc c'est un peu une forme hybride entre une conférence et un spectacle, puisque Lucie va nous parler de la fascination en fait qu'elle a sur le côté l'émerveillement. Nous
oui.
expliquer qu'est-ce que l'émerveillement, pourquoi on attend ce waouh. Et donc elle s'est entourée donc avec Gaspard Schell qui est créateur mais aussi technicien.
Oui.
Tous les deux ont été amenés à travailler ensemble pendant le confinement. D'où est sorti ce spectacle sur ces interrogations de pourquoi en fait on s'émerveille. Et donc ils nous invitent vraiment à cette pseudo conférence spectacle pour découvrir en fait pourquoi en fait on attend à un moment donné un waouh et qu'est-ce que ça nous fait en fait le bien-être que ça nous procure. Donc voilà, je vous invite à découvrir le solo.
Le solo, donc à découvrir le 3 février en clôture de ces 400 coups à 20h30 sous le chapiteau de la caserne Chanzy à Chalon en Champagne. L'information de la programmation et puis réservation, on vient de le rappeler quelques instants, notamment sur le rendez-vous à destination des enfants de 0 à 3 ans sur le site lepalque.fr. Avant de nous quitter, Cécilia, un petit mot rapide en tant que casquette de Fury désormais, parce que Palk et Fury, voilà, ça travaille main dans la main maintenant depuis un certain temps. On peut rappeler notamment, avant de nous quitter, que mi-avril, il y aura un super rendez-vous qu'on a l'habitude de retrouver du côté de Chalon-Champagne. Maintenant, ça reste un des moments phares de cette année, de l'année. C'est le court circus, mi-avril.
Tout à fait. La semaine du 15 au 21 avril, on va avoir ce rendez-vous qu'on a dans le quartier du Verbeau, où on invite plusieurs compagnies à faire des ateliers, rencontrer les habitants du quartier et de Chalon-en-Champagne et à travailler vraiment en immersion dans le quartier. Donc là, on va avoir deux compagnies. Je vous laisse pour l'instant la surprise de découvrir lesquelles, puisqu'elles vont faire un travail de fond.
Et puis on reviendra vous interroger dans les prochaines semaines, Cécilia, c'est obligé. Hein.
Tout à fait, donc voilà. Je vous laisse vraiment encore la surprise. Et puis le prochain rendez-vous ensuite, c'est le festival
Fury
bien
voilà.
évidemment.
On connaît bien ici à Chalon-Champagne, la ville circassienne, qui aura lieu début juin.
Début juin, du 4 au 8 juin, et ce sera la 35e édition.
Merci Cécilia Belvert, chargée de communication à Palk et Fury, d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF. On rappelle, les 400 coups pour sa cinquième année auront lieu du 31 janvier au 3 février du côté de Châlons-Champagne. Merci Cécilia.
Merci Christopher.
Oui, merci Cécilia Bellévert, merci Christopher. Depuis le studio RCF à Châlons-en-Champagne, infos et réservations sur le site lepalque.fr. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci à Fabrice Gironnet pour la mise en onde. Merci à vous les auditeurs pour votre fidélité. Merci Mélissa de nous avoir accompagnés. On vous retrouve demain.
Eh bah, bien, bien évidemment.
Avec, pourquoi pas, la météo, vous serez au top. Il n'y a pas de problème. Très bonne soirée en compagnie des programmes de RCF.